Bonjour à tous, mon nom est Sarah Edith Penney et je dirige le Réseau québécois d'éducation en santé respiratoire, le RQESR. Il me fait plaisir de vous accueillir à ce programme sur l'hypertension pulmonaire avec notre expert, le docteur Steve Provencher, qui est pneumologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, l'IUCPQ. Donc, cette trilogie de balado a été rendue disponible grâce à une subvention à l'éducation octroyée au RQSR par Merck Canada. À la fin du programme, les participants qui auront complété le questionnaire d'évaluation et qui auront réussi avec une note de plus de 70% se verront attribuer une attestation de réussite accompagnée de 0,1 USC qui correspond à une heure de formation continue accréditée. Sans plus tarder, je vous laisse écouter notre expert, le docteur Steve Provencher.
Très bien, mon nom est Steve Provencher. Je suis pneumologue à l'Institut cardio-pneumo de Québec, puis directeur de la clinique d'hypertension pulmonaire ici à l'Université Laval.
Pouvez-vous nous parler de l'épidémiologie des différents types d'hypertension pulmonaire?
En fait, encore une fois, ça dépend du type d'hypertension pulmonaire. Si on prend l'HTAP comme tel, donc l'hypertension artérielle pulmonaire, d'un remodelage vasculaire, on parle de plusieurs centaines de patients au Québec. Probablement moins de 1 000 au Québec, hein, donc c'est quand même une maladie rare. Les hypertensions pulmonaires de groupe 4, donc suite à des embolies pulmonaires, ben, c'est en principe plus fréquent parce que ça touche environ 1% des patients qui ont subi une embolie pulmonaire. Donc, l'embolie pulmonaire étant assez fréquente, on devrait avoir passablement de patients au Québec. Je pense que c'est un type d'hypertension pulmonaire qui est actuellement sous-diagnostiqué parce que pendant très longtemps, les médecins ont considéré qu'encore une fois, que l'embolie pulmonaire, c'est un phénomène aigu. Et après ça, on ne s'en soucie pas tant que ça par la suite, alors qu'il y a un sous-groupe de patients qui conservent des limitations et je pense qu'on manque des diagnostics. Maintenant, les hypertensions pulmonaires de groupe 2 et 3, c'est clairement les plus fréquentes. Donc, pour vous donner une idée, là, chez des MPOC sévères, des fois, on parle de 30 à 50 % de ces patients-là qui ont de l'hypertension pulmonaire secondaire. En insuffisance cardiaque gauche, c'est aussi une proportion non négligeable, probablement 20 à 60 % des patients. Donc, dans les hypertensions pulmonaires de groupe 2 et 3, le bassin de population est énorme, là, au Québec ou au Canada, parce que ce sont des maladies très, très prévalentes. Et une proportion significative de ces patients-là vont avoir de l'hypertension pulmonaire secondaire. Pour l'instant, les hypertensions pulmonaires de groupe 2 et 3, qui correspondent à un énorme bassin de patients qui sont dans la population, peut-être sans diagnostic, faut quand même comprendre que ce sont des patients pour lesquels il n'y a pas de traitement spécifique autre que le traitement de la maladie de base. C'est bien le savoir parce que c'est un impact sur la prise en charge, le pronostic des patients, etc. Maintenant, ce n'est pas aussi dramatique que les hypertensions pulmonaires de groupe 1 et 4 parce que ce sont des patients pour qui on peut intervenir pour améliorer leur qualité de vie, vraisemblablement leur survie. Et on a aussi quand même des indices qui suggèrent que plus on retarde l'initiation d'une prise en charge chez ces patients-là, en fait, le traitement sera moins efficace et donc, on aura moins de bénéfices au traitement comparé à un traitement qui serait initié plus précocement. Donc, les hypertensions pulmonaires de groupe 1 et 4, c'est particulièrement important de les diagnostiquer plus précocement et d'être à l'affût parce que ce sont des symptômes, des diagnostics qui sont plus difficiles à porter.
Comment vous envisagez là, les perspectives d'avenir justement pour les traitements ou pour les prises en charge ou pour l'amélioration du diagnostic?
Bien, en fait, pour l'amélioration du diagnostic, déjà, je crois que depuis une vingtaine d'années, il y a eu beaucoup, beaucoup d'éducation médicale continue, auprès de plusieurs types de professionnels de la santé. Je pense que les choses se sont quand même améliorées pour la peine, là, depuis 20 ans, particulièrement chez les professionnels qui s'occupent de patients à risque de développer de l'HTAP. Par exemple, le meilleur exemple, c'est probablement les rhumatologues qui soignent les patients porteurs de lupus, de sclérodermie, etc. Ils sont maintenant très, très, très à l'affût du fait qu'une complication fréquente chez ces patients-là, c'est l'HTAP. Donc, clairement, ils sont à l'affût. Ces patients-là sont référés plus précocement. Donc, il y a eu beaucoup d'éducation médicale continue, de fait auprès des, notamment au niveau des spécialistes qui sont susceptibles de rencontrer ces patients-là. Je pense que dans la population plus générale, je pense que le défi, c'est de faire réaliser qu'un patient qui a une dyspnée inexpliquée, en fait, on doit vraisemblablement pousser l'investigation plus loin. Maintenant, il faut quand même être prudent parce que la plupart du temps, les gens qui vont être dyspnéiques, qui vont avoir des soufflements à l'effort, bien, on va avoir une cause cardiaque ou pulmonaire assez fréquente, beaucoup moins dramatique que l'hypertension pulmonaire, où ça peut être en lien également avec une prise de poids, des conditionnements, etc. Donc, il ne faut pas nécessairement penser qu'on a nécessairement de l'hypertension pulmonaire dès qu'on est essoufflé, mais je pense qu'on a quand même un défi de faire réaliser aux gens que si il y a vraiment de l'essoufflement, qu'on n'a pas de cause évidente, il faudrait aller plus loin. Donc, en termes de dépistage, je pense qu'il nous reste un peu de défi de ce côté-là. Puis en maladie en hypertension pulmonaire post-embolique, encore une fois, je pense que c'est sous-diagnostiqué. Donc là, il y a de l'éducation médicale continue à faire de ce côté-là. D'un point de vue de traitement, dans le groupe 1, en HTAP, bien, les choses se sont améliorées passablement, mais il reste encore du travail à faire. Donc, c'est clair que ce n'est pas parfait. Avec les traitements actuellement, les patients survivent mieux, plus longtemps, mais le pronostic n'est pas parfait. On doit faire mieux. Ce qu'on fait dans les dernières années, ce qu'on a fait dans les dernières années, c'est qu'on a combiné de plus en plus les traitements ensemble. Donc, souvent, les patients vont être traités avec deux, parfois trois traitements différents pour traiter le remodelage des artérioles pulmonaires. Il y a quand même des nouveaux traitements qui s'en viennent aussi, qui, espérons-le, vont être plus efficaces encore que ce qu'on a actuellement pour renverser le remodelage. Donc, je pense qu'il y a, il y a, il y a de l'espoir de ce côté-là. Puis, à côté de ça, bien, nous, on continue à travailler sur les causes de ce remodelage-là pour identifier des nouvelles voies qui pourraient être ciblées par des traitements. Donc, on a des bonnes idées de comment on pourrait cibler cette maladie-là pour mieux intervenir chez ces patients-là. Clairement, je pense qu'en hypertension pulmonaire de groupe 1, il y a clairement de l'espoir dans les prochaines années, malgré tout le chemin qui a été fait depuis 20 ans. L'autre gros défi qui reste, c'est l'hypertension pulmonaire de groupe 2 et 3. Donc, en lien avec une maladie cardiaque gauche ou une maladie respiratoire. Donc, ça, c'est un gros défi parce que ce sont des patients qui sont très, très hétérogènes. Et donc, ce sont des patients qui ne sont pas faciles à étudier. Donc, les patients, par exemple, MPOC, ben, deux patients MPOC avec hypertension pulmonaire peuvent être très, très, très différents dans la maladie respiratoire sous-jacente qui prédispose au développement de l'hypertension pulmonaire. Donc, c'est illusoire de penser que le même traitement va être aussi efficace pour l'ensemble des patients qui ont ce type d'hypertension pulmonaire-là. À l'heure actuelle aussi, on a eu plusieurs traitements qui ont été tentés chez les patients avec hypertension pulmonaire de groupe 2 et 3 pour essayer d'améliorer l'hypertension pulmonaire. Globalement, ces traitements-là ont été démontrés comme en général inefficaces, parfois même un petit peu délétères dans certains cas. Donc, jusqu'à date, les développements thérapeutiques ont été assez décevants pour traiter spécifiquement l'hypertension pulmonaire de groupe 2 et 3. Donc, c'est clairement un défi dans les prochaines années de trouver des nouveaux traitements pour ce type de patients-là. Puis peut-être le dernier défi qui est un beau problème en même temps, c'est que maintenant, je reviens à l'HTAP, l'hypertension pulmonaire de groupe 1, auparavant, donc il faut mettre les choses en perspective. Il y a 20 ans, la survie moyenne de ces patients-là était de l'ordre de 2 ans et demi environ, donc c'est une maladie qui était excessivement mortelle. Maintenant, on a des survies à long terme qui sont vraiment meilleures. Environ 85-90% des gens vont toujours être présents, toujours vivants après 5 ans. On a suivi maintenant des patients depuis plus de 20 ans. Et donc, ça amène un nouveau défi où est-ce que, auparavant, c'était une maladie de gens parfois relativement jeunes, entre 20 et 60 ans, si on veut. Mais ce sont des gens qui vieillissent, qui développent, comme la population générale, des comorbidités. Et donc, des comorbidités qui doivent être prises en charge. Et puis, la prise en charge est des fois un petit peu plus complexe parce que, à cause de l'hypertension pulmonaire qui persiste, la prise en charge, par exemple, je sais pas, d'une arthrose de la hanche, par exemple, est plus complexe parce que l'HTAP va augmenter les risques chirurgicaux d'une chirurgie, par exemple. Donc, c'est quand même un nouveau défi qu'on voyait pas il y a 20, ou qu'on voyait très peu il y a 20 ans. Mais comme je disais, c'est un beau problème. Ça veut dire que globalement, les patients survivent plus longtemps. On voit des choses qu'on ne voyait pas auparavant dans ce contexte-là.
Donc, pour le groupe 2 et 3, le fait de diagnostiquer précocement aussi la maladie de base, de la prendre en charge rapidement pour éviter les détériorations pourrait quand même aider un petit peu, j'espère.
Ben oui, je pense que y a quand même des développements quand même dans la prise en charge des patients avec insuffisance cardiaque gauche et maladies respiratoires en général. Donc, je pense qu'ultimement, ça va mener à des améliorations générales de l'hypertension pulmonaire de façon globale chez ces patients-là. Mais encore une fois, c'est un défi là, de trouver une avenue thérapeutique pour améliorer ces patients-là. Parce qu'encore une fois, ceux qui développent de l'hypertension pulmonaire en insuffisance cardiaque gauche ou en maladie respiratoire, c'est vraiment un sous-groupe de patients qui est quand même un peu à part en termes d'aggravation de symptômes, d'aggravation du pronostic également. Donc je pense qu'on doit, faire mieux. Puis l'autre élément important, c'est que dans les hypertensions pulmonaires, par exemple, de groupe 3, maladies respiratoires en général, plus la maladie pulmonaire va être sévère, plus ces patients-là vont avoir tendance à faire de l'hypertension pulmonaire, mais il n'y a pas toujours de lien très, très direct entre les deux. Donc, on a parfois des patients qui ont une maladie respiratoire moins sévère et qui ont quand même de l'hypertension pulmonaire significative, pour lesquels on a vraiment l'impression qu'il y a une maladie des vaisseaux pulmonaires. Et donc, c'est vraiment un sous-groupe de patients pour qui il faut développer des traitements là, dans les prochaines années pour les améliorer clairement.
En tant que directeur du groupe de recherche sur l'hypertension pulmonaire ici à l'UCPQ, avez-vous un message au niveau de la recherche à passer? Avez-vous des travaux?
Oui, bien en fait, on est un groupe de chercheurs en hypertension pulmonaire ici à l'UCPQ. Donc, c'est un groupe qui a grossi là, dans les 12-15 dernières années. Donc, c'est un groupe très, très, très actif là, en recherche en hypertension pulmonaire. Clairement, il y a des développements qui sont vraiment intéressants dans la découverte de voies de signalisation nouvelles qui peuvent être intéressantes à peu près dans l'ensemble des types d'hypertension pulmonaire qu'on étudie actuellement. Donc, on fait de la recherche en hypertension pulmonaire de groupe 1 surtout, mais également en hypertension pulmonaire de groupe 2 et 3 également. Je pense que le message plus général, c'est je pense qu'il y a de l'espoir. Là. Il y a déjà eu des avancées significatives, mais imparfaites dans les 20 dernières années, puis il va y en avoir encore davantage. C'est clair, c'est assez particulier de voir, pour une maladie quand même, surtout l'hypertension pulmonaire de groupe 1, une maladie qui est quand même peu fréquente, de voir l'engouement substantiel qu'il y a en recherche, pas seulement ici, là, donc partout dans le monde, pour essayer de trouver les mécanismes, puis des voies de signalisation à cibler pour améliorer les symptômes puis la survie des patients porteurs d'hypertension pulmonaire. Donc, j'aurais un message d'espoir parce que je pense que dans les 20 prochaines années, les choses vont changer de façon encore drastique, je pense.